Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce 20 juin, alerte en Nouvelle-Galles du Sud avec au total 9 cas de Covid dans le cluster de Bondi. Le Queensland a un seul nouveau cas de Covid au sein de la communauté et dans le Victoria, aucun cas de Covid à signaler au sein de la communauté. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud impose certaines restrictions concernant le coronavirus après que l'État a détecté ce dimanche 2 autres cas de Covid. L'État a déjà confirmé qu'un homme âgé d'une trentaine d'années avait été infecté et maintenant un contact familial de ce cas a également été testé positif. 2 autres infections ont été signalées dans la nuit, une femme et un homme dans la cinquantaine. La chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que les masques seraient désormais obligatoires à l'intérieur dans cette zone de l'État.
We have to make sure we're not complacent. We have to make sure that we are complying to what we're asking you to do. Please, we don't want to have to extend to further restrictions unless we absolutely have to.
Le Queensland a enregistré un seul cas de coronavirus, une personne qui est entrée en contact avec une personne infectée par la variante Delta lors d'un vol. La personne a quitté la quarantaine de l'hôtel, s'est rendue dans un appartement, puis s'est dirigée vers l'aéroport, déclenchant une alerte pour les autres personnes ayant visité les mêmes sites hier. Le médecin en chef, la docteure Janet Young, a déclaré que le cas, un membre d'équipage, est arrivé à Brisbane le 5 juin dernier en provenance de Dubaï.
There was a passenger who tested positive with the Delta variant and she was a contact of that passenger. So that's the most likely source, but we'll find that out when we get the whole genome sequencing back. But that's why I'm assuming that it is Delta and that's why I'm taking this very very cautious approach.
Aucun nouveau cas de coronavirus dans le Victoria après quelque 19 502 tests au cours des dernières 24 heures. Il n'y a pas de restriction de voyager à travers le Victoria, mais les masques doivent toujours être portés à l'intérieur. L'État a également détecté 2 nouveaux cas de Covid acquis à l'étranger et aucun autre site d'exposition n'a été répertorié. Entre-temps, le gouvernement de l'État a déclaré avoir fermé 7 entreprises pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires. L'opposition fédérale affirme que le gouvernement n'a pas réussi à négocier suffisamment d'accords sur les vaccins pour le déploiement pour essayer de mettre fin à la pandémie de COVID-19. Les directives sanitaires pour le vaccin AstraZeneca ont changé. Le gouvernement conseillant aux personnes de moins de 60 ans de recevoir le vaccin Pfizer à la place en raison des rares caillots sanguins. Le porte-parole du Labour sur la santé, Mark Butler, a déclaré sur Sky News que bien que personne n'aurait pu prédire les effets secondaires des caillots sanguins d'AstraZeneca, le gouvernement aurait pu faire davantage.
There is a lot of confusion. This will, I think, be a further break on a vaccine rollout that is already desperately behind schedule. This vaccine rollout, have no doubt, is in deep trouble.
À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés ce dimanche, les Nations unies appellent à une plus grande inclusion des réfugiés dans les systèmes de santé, de l'éducation et du sport. L'organisation appelle également pour que les réfugiés aient un accès égal à l'éducation, au travail et aux vaccins contre le COVID-19 dans le monde entier et dans leur pays d'accueil. Kate Blanchett, l'actrice australienne lauréate d'un Oscar et ambassadrice de bonne volonté du HCR, a déclaré que l'incertitude autour du COVID-19 devrait inciter le monde à sympathiser avec les réfugiés.
So I think that there's a kind of an opportunity to in a very compassionate way, as we you know, embrace World Refugee Day, to think about how we have felt, those of us who are not, who are fortunate not to be in a refugee, how we have dealt with uncertainty, and perhaps to sort of place ourselves in the shoes of mothers and fathers and doctors and lawyers who have been, through no fault of their own, displaced.
Tarnica Murugappan, âgée de 4 ans, est sortie d'un hôpital de Perth ce week-end après avoir souffert d'une infection du sang. Elle et sa famille tamoul ont commencé leur détention au sein de la communauté, mais insistent sur le fait qu'ils veulent retourner vivre à Bilola, dans le Queensland. La semaine dernière, le ministre fédéral de l'immigration a autorisé la famille à vivre à Perth pour le moment et a déclaré que sa position sur la protection des frontières n'avait pas changé. Des Australiens se sont réunis lors de veillées pacifiques pour manifester leur soutien à la famille et demander au gouvernement fédéral de les laisser retourner à Bilola, au Queensland. En France, le premier tour des élections régionales avec l'abstention qui fait craindre, selon les instituts de sondage, 6 sur 10 Français n'iront pas voter. Aurélien Devernois pour Radio France Internationale.
Il y a bien évidemment le Covid qui a perturbé la campagne électorale, limitant les meetings porte-à-porte et autres réunions publiques. Mais selon Céline Braconnier, auteure de La démocratie de l'abstention, la désertion des urnes est désormais une habitude bien ancrée.
L'abstention tend à augmenter depuis une vingtaine d'années pour tous les scrutins et avec une accentuation de la démobilisation depuis 2017. Il y a une méfiance vis-à-vis de la politique, un scepticisme de plus en plus marqué par rapport à l'idée que la politique pourrait changer la vie des gens, qui fait perdre son sens au déplacement vers les urnes.
Autre problème, le fossé qui se creuse entre les partis politiques et les citoyens qui se mobilisent, gilets jaunes ou marche pour le climat. Résultat, les jeunes et les classes populaires se déplacent de moins en moins pour soutenir un parti, à une exception près, selon le politologue Benjamin Morel, le Rassemblement National.
C'est un électorat qui se mobilise plus qu'à son habitude pour des élections intermédiaires, avec un électorat plutôt populaire qui généralement est plutôt abstentionniste. Ça peut signifier que c'est un électorat qui est susceptible d'arriver en masse aux urnes en 2022.
Et c'est d'ailleurs bien le pari de Marine Le Pen, remporter une ou plusieurs régions pour encore élargir son électorat en vue de la présidentielle.
Ce premier tour des élections régionales va désigner 1757 conseillers régionaux et 4108 conseillers départementaux. Valérie Gasse, RFI.
Les conseillers régionaux et départementaux bénéficient tous de mandats de 6 ans, mais le mode de scrutin est différent. Les conseillers régionaux sont élus à la proportionnelle sur des listes paritaires dans 12 régions métropolitaines auxquelles s'ajoutent la Guadeloupe et la Réunion. Les listes sont régionales, mais les candidats se présentent dans des sections départementales. Pour accéder au second tour, les listes doivent obtenir 10% des suffrages exprimés au premier tour. La liste qui arrive en tête obtient une prime majoritaire de 25% des sièges. Les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix se répartissent le reste des sièges. Aux élections départementales anciennement cantonales, ce sont des binômes femmes-hommes qui se présentent. Le scrutin est majoritaire. Seul le binôme qui arrive en tête est élu. Pour accéder au second tour, il faut obtenir au premier tour le vote de plus de 12,5% des inscrits. À Paris et dans la métropole de Lyon, on ne vote que pour les régionales car le conseil municipal et la métropole exercent les compétences départementales. En Corse, Martinique et Guyane, en vertu de leur statut, ce sont des élections territoriales régies par des règles équivalentes à celles des régionales.
En Iran, Ebrahim Raisi a remporté l'élection présidentielle avec quelque 62% des voix au premier tour. Et nous reviendrons largement sur le portrait de ce nouveau président iranien dans notre série Personnages avec Émile Matasso tout à l'heure dans l'émission après le journal des sports. En Israël, c'est la sonnette d'alarme avec l'élection de ce nouveau président iranien. Précision de Michel Paul pour RFI.
La réaction du ministre israélien des Affaires étrangères est venue très vite. Pour Yair Lapid, le président élu iranien est un extrémiste responsable de la mort de milliers de ses compatriotes. Il est déterminé à mener à bien les ambitions nucléaires de son pays, ajoute le nouveau chef de la diplomatie israélienne. Un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères indique encore que plus que jamais, c'est le programme militaire nucléaire iranien qui doit être stoppé de manière immédiate. Des responsables militaires israéliens cités par les médias ici affirment sous couvert d'anonymat qu'il n'y aura pas d'autre choix désormais que de préparer des plans pour contrer directement le programme nucléaire iranien. Cela nécessitera des budgets et aussi une réaffectation des ressources, indiquent ces mêmes sources sans autre précision. Et selon le quotidien Haaretz, d'autres responsables sécuritaires tirent la sonnette d'alarme. Ils affirment que le nouvel accord nucléaire qui se prépare est de loin pire que son prédécesseur.
L'autorité palestinienne annule l'accord avec Israël concernant les vaccins anti-Covid. Les doses de vaccins Pfizer reçues de l'État hébreu vont bientôt expirer, selon les Palestiniens. Explication, Alice Froussard, RFI.
Le porte-parole de l'autorité palestinienne a été clair. Après l'examen du premier lot de vaccins Pfizer reçus d'Israël, il a été découvert qu'il n'était pas conforme aux caractéristiques prévues par l'accord. Je cite « Le gouvernement refuse donc des doses en passe d'être périmées », insiste-t-il lors de la conférence de presse, alors que déjà 90 000 doses avaient été reçues et sont sur le point d'être rendues. La date exacte de péremption n'a pas été précisée par l'autorité palestinienne, mais l'accord incluait des doses encore valables en juillet et en août. Et sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos de doses de vaccins périmant en juin ont été partagées. En tout cas, les critiques sont vives ici, en Cisjordanie occupée. Beaucoup accusaient déjà le gouvernement palestinien de cet accord sur le fait d'accepter des vaccins de qualité inférieure, suggérant qu'ils pourraient ne pas être efficaces. D'autres critiques évoquent un accord pas si charitable que prétendu, je cite, ne traitant pas des problèmes fondamentaux qui empêchent un système de santé fonctionnel. Enfin, certains pointent du doigt le fait que cet accord était de toute façon dans l'intérêt d'Israël, je cite, pour que l'État hébreu récupère les nouvelles doses destinées aux Palestiniens en octobre.
Les Américains ont célébré hier, samedi 19 juin, Juneteenth, la fête du 19 juin qui marque la fin de l'esclavage dans le pays. Cette journée est célébrée comme une fête nationale grâce au vote du Congrès il y a quelques jours. Reportage Lubna Anaki pour RFI.
À Harlem, Juneteenth était déjà célébré chaque année. L'occasion, comme aujourd'hui, de se retrouver en famille, danser, manger, rendre hommage à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Ici, on salue l'adoption du 19 juin comme fête nationale.
Ça aurait dû être fait il y a longtemps déjà.
Les gens reconnaissent enfin cet événement que la communauté noire fête depuis des années. Et maintenant, le reste du pays sait, et peut-être même que certains sauront enfin ce que cette journée représente vraiment.
Juneteenth marque la fin effective de l'esclavage en 1865, 2 ans et demi après son abolition par Abraham Lincoln. À l'époque, la guerre de sécession fait que la nouvelle de la fin de l'esclavage met 2 ans et demi à arriver dans les États sudistes. Si l'ambiance est à la fête aujourd'hui, certains estiment qu'il faut plus que des gestes symboliques, surtout à l'heure où le droit de vote des minorités est menacé dans certains États républicains.
On doit continuer à nous battre, on ne peut pas s'arrêter à cette petite victoire. Il faut continuer pour obtenir ce qu'on mérite et préserver nos droits de vote partout.
Deux élus se sont joints aux célébrations dans ce parc de Harlem, le maire Bill de Blasio et le sénateur new-yorkais Chuck Schumer, lequel a renouvelé son engagement pour la lutte contre le racisme et la protection des droits civiques.
Des membres de la communauté LGBTQI en Pologne ont participé à un défilé pour l'égalité après une pause de 2 ans sur les événements de fierté en raison de la pandémie. Le maire de Varsovie a assisté au défilé de la fierté pour montrer son soutien, tandis que le parti populiste au pouvoir en Pologne a généralement poussé les politiques conservatrices. Écoutez Carolina Kejdziora de l'association polonaise de droit anti-discrimination contre les opinions de haine et d'exclusion véhiculées dans les médias.
Sometimes one statement made by a politician in the state-owned media has such an effect that the next day, organizations like mine, those defending the rights of the LGBT community, receive reports of people being attacked.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 15, Hobart 12, Canberra 14, Sydney 17, Brisbane 22, Cairns 25, Darwin 31 et à Alice Springs maximale de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce 20 juin, alerte en Nouvelle-Galles du Sud avec au total 9 cas de Covid dans le cluster de Bondi. Le Queensland a enregistré un seul nouveau cas de Covid au sein de la communauté et dans le Victoria, la bonne nouvelle, aucun cas de Covid à signaler. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.